Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Bonjour à tous, à tous ceux qui nous écoutez et nous regardez. Je vous remercie pour votre fidélité. Et je le répète, mais si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pas beaucoup pour vous, mais c'est beaucoup pour nous. Et vous pouvez aussi faire un don. Et pour faire ce don, il suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez dans la description de ce podcast. Et en plus, en faisant ce don, vous recevrez un abonnement d'un an au magazine Histoire et Civilisation. En ce matin du 6 février 1934, Paris se réveille en colère. Ses habitants découvrent placardés au mur et dans les pages de leurs journaux des appels à manifester contre le gouvernement. « La dictature du sectarisme veut s'implanter chez vous. Ton parlement est pourri. Abat les voleurs. » Et le soir même du 6 février, à la Concorde, la manifestation tourne à l'émeute. On compte tout de même 20 morts et plusieurs centaines de blessés. On a gardé le souvenir de la violence et on a souvent interprété cette manifestation comme un coup d'État fasciste ou du moins une tentative de prise de pouvoir de l'extrême droite. La veille de sa propre mort, de son exécution, même l'intellectuel fasciste Robert Brasillach faisait mémoire des morts du 6 février 1934. Voici ce qu'il disait. « Sur 11 ans de retard, serais-je des vôtres? Je pense à vous ce soir aux morts de février. » Alors, est-ce que la manifestation a-t-elle été portée uniquement par les fascistes? Cet épisode dramatique a-t-il véritablement constitué une menace pour le régime en place, qui est donc la Troisième République? Derrière les slogans, quelles sont les revendications des manifestants? Et puis, quelles sont les causes lointaines et le détonateur de cette manifestation qui a manifestement marqué l'histoire? Et alors, pour parler de cette séquence, de cette journée, je reçois l'historien Olivier Dard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, enfin à Sorbonne Université, comme on dit aujourd'hui. Vous êtes spécialiste d'histoire politique et pour citer deux de vos ouvrages, vous avez notamment écrit une biographie de Charles Maurras et de Bertrand de Jouvenel. Nous sommes toujours à peu près dans cette période avec votre dernier livre, Février 34, L'affrontement, un livre qui est paru chez Fayard. Alors une première question, Olivier Dard, quel est l'apport, le nouvel angle que propose votre livre par rapport par exemple à l'ouvrage de Serge Bernstein qui était intitulé Le 6 février 34?
Alors ce livre donc qui est proposé, Février 34, je tiens d'abord à dire que je ne l'ai pas écrit tout seul. Nous l'avons co-écrit avec Jean Philippet qui avait fait une thèse en son temps avec Raoul Girardet sur le temps des ligues. Et ce livre, effectivement, est le produit d'une longue réflexion, d'un long travail en commun. Alors, par rapport au livre, effectivement, de Serge Bernstein, plusieurs choses. D'abord, le livre de Serge Bernstein, qui date de 1975, c'est un livre ancien, avait été publié dans une collection très classique, que les historiens connaissent bien, qui est la collection Archives. Bon, c'est un livre, évidemment, d'une taille beaucoup plus modeste que celui que nous proposons. Par ailleurs, le livre de Serge Bernstein, qui, pour le dire simplement, démontait la thèse, effectivement, d'une tentative de coup d'État fasciste contre la République, se fondait principalement sur le rapport donc de la commission d'enquête née de la manifestation donc du 6 février 1934, alors que nous, pour notre part, nous avons utilisé des archives beaucoup plus importantes, notamment les archives de la dite commission, plus toute une série d'archives de police, d'archives privées, etc., etc. Troisième élément important, c'est que nous n'avons pas cherché dans ce livre à nous contenter de traiter de la soirée du 6 février 1934, de ces 19 morts, de l'émeute dont vous avez fait état, mais nous avons cherché à introduire cette soirée du 6 février 1934 dans le cadre d'une séquence. Une séquence qui, pour nous, démarre effectivement au tournant de l'année 1932-1933, l'année 1933 2023 est très intéressante pour comprendre comment on en arrive à cet hiver du malaise qui débouche sur le 6 février. Le 6 février n'est pas la seule manifestation importante de ce mois capital, puisqu'il y a la manifestation du 6, on y reviendra bien sûr. Il y a celle du 7, le lendemain. Le 9, c'est la manifestation des communistes. Et puis le 12, il y a toute une série de manifestations de gauche en province et à Paris. Et notre projet a été de finalement mener à bien cette étude jusqu'à l'automne 1934, chute du gouvernement Doumergue, né de l'émeute du 6 février, porteur de projets de réforme de l'État. Ce projet de réforme de l'État et de la réforme de la Troisième République n'a finalement pas vu le jour, ce qui a entretenu chez un certain nombre d'anciens des manifestants de février un sentiment d'impuissance, le sentiment que le régime n'était plus en mesure de se réformer. Et vous parliez de la question d'un fascisme français. Ce fascisme français est beaucoup plus intéressant à étudier après le 6 février. C'est là où il commence à prendre forme qu'avant le 6, où on a effectivement un certain nombre de ligues nationalistes, bon, que certains ont qualifiées de fascistes, que les gauches à l'époque qualifient de fascistes, mais qui sont en réalité les des mouvements nationalistes, nationaux, qui ont commencé avec le boulangisme dans les années 1880 et puis se sont développés notamment dans la France des années 1920.
Alors, pour qu'on sache exactement de quoi on parle, on a évoqué que cette manifestation était anti-gouvernementale. Vous avez évoqué le gouvernement. En quelques mots, Olivier Dard, si c'est possible de le faire en quelques mots, comment on gouverne à cette époque-là ?
Alors, la Troisième République est un régime qui s'est implanté à partir des lois constitutionnelles de 1875, après avoir été proclamé au lendemain du désastre de Sedan, en 1870. Mais cette Troisième République s'est construite autour d'un certain nombre de crises, celle du 16 mai 1877, puis la crise boulangiste des années 1880, l'affaire Dreyfus, pour arriver à ce que, vous parliez de Serge Bernstein. Serge Bernstein et Odile Rudel avaient appelé un modèle républicain. C'est-à-dire, au fond, une république dominée par le parlementarisme. La Troisième République est très différente de celle d'aujourd'hui, en ce sens que, de la Cinquième, j'entends, que le pouvoir exécutif y est beaucoup plus faible, que le président de la République, qui pourrait avoir des pouvoirs, d'ailleurs, au vu de la lettre des lois constitutionnelles de 1875, en réalité, depuis la crise du 16 mai 1877, on a beaucoup moins. Il y a eu toute une pratique constitutionnelle qui a fait que ce président de la République, sous la Troisième République, est une forme d'arbitre qui, finalement, se contente en particulier de... On a dit souvent qu'ils inauguraient les chrysanthèmes. Bon, n'allons peut-être pas jusque-là, mais ils nomment effectivement des futurs présidents du Conseil, ou plutôt ils les proposent. Mais c'est véritablement les assemblées, et quand je dis les assemblées, c'est à la fois la Chambre des députés et le Sénat, qui domine le jeu politique. Et donc, ça permet de comprendre évidemment pourquoi, dans l'affaire du 6 février 1934, on a une part aussi importante d'anti-parlementarisme. L'anti-parlementarisme qui caractérise les manifestants du 6 février 1934 s'explique évidemment à cause de la prépondérance du Parlement dans les institutions, puisque le président du Conseil, qu'on qualifie parfois de Premier ministre, par un raccourci d'ailleurs un peu facile, ce président du Conseil à l'époque, on est en 1934, n'est jamais que le premier des ministres, si l'on peut dire, et n'a même pas d'ailleurs de lieu, la présidence du Conseil n'a pas encore de lieu particulier, de lieu dédié, comme on dirait aujourd'hui, puisque l'hôtel Matignon a été acheté plus tard, en 1935, par Pierre-Étienne Flandin, donc, qui a instauré, en quelque sorte, véritablement, ou a essayé d'instaurer une présidence du Conseil, véritablement.
Donc la politique se fait dans les chambres, c'est ce que vous nous avez dit. Alors, quelles sont les forces en présence ? Évidemment, je parlais de ces chambres-là, mais aussi les forces politiques qui existent à travers d'autres organes, comme la presse, comme la rue, justement.
Alors, au Parlement, il faut repartir des élections de 1932. Ces élections de 1932 ont été remportées par ce qu'on appelle le néo-cartel des gauches, c'est-à-dire une alliance entre le Parti radical, qui est assurément le parti qui est la colonne vertébrale de cette Troisième République, alors dominé par certaines figures que l'on retrouve évidemment au moment de la crise de février, hein, Édouard Herriot, Camille Chautemps, Édouard Daladier. Donc ce Parti radical, c'est le parti dominant, et il est allié avec le Parti socialiste, qu'on appelle la section française de l'Internationale ouvrière, le parti de Léon Blum. Mais le Parti socialiste, s'il est allié aux élections aux radicaux, ne veut pas, à ce moment-là, participer au gouvernement. Et donc, vous avez au gouvernement le Parti radical seul, qui peut nouer effectivement des alliances. Alors, nous sommes effectivement dans une république parlementaire. Il y a, en 1932, 17 groupes parlementaires. Donc, ça vous donne un petit peu une idée des possibilités qui s'offrent. Bon, à gauche, évidemment, il est hors de question d'envisager la moindre alliance avec le Parti communiste, qui, lui, combat très durement cette république parlementaire, et en particulier le Parti radical. Mais le Parti radical, qui est véritablement le parti pivot, peut essayer de nouer un certain nombre d'alliances avec des groupes plutôt centristes, centre-droit. Alors, si on simplifie, vous avez évidemment, pour les élections de 1932, un grand vaincu, c'est André Tardieu, qui était le chef de la droite parlementaire à la veille des élections, qui, lui, avait fait campagne pour une réforme de l'État importante, renforçant le pouvoir exécutif. Il avait été battu par les électeurs, et donc Tardieu est très clairement dans l'opposition. Mais dans son propre parti, qui s'appelle l'Alliance démocratique, il y a un certain nombre de figures qui sont beaucoup plus ouvertes à ce qu'on appelle la concentration républicaine, c'est-à-dire une alliance des centres, une alliance avec les radicaux, et parmi eux, on trouve des personnages comme Pierre-Étienne Flandin. Mais vous avez aussi des formations plus à droite, notamment la Fédération républicaine, d'un personnage qui s'appelle Louis Marin, catholique, plus national, lié, et c'est important à souligner, aux ligues, ou du moins à certaines d'entre elles, à commencer par les Jeunesses patriotes. Car, pour bien comprendre ce qui se joue le 6 février 1934, il faut évidemment avoir en tête la scène parlementaire, mais comme vous l'avez dit, il faut aussi avoir en tête la rue et la presse. Alors, commençons par la rue et commençons par les ligues. Vous avez, depuis le tournant des années 30 et la crise qui touche le pays, la remontée ou la progression de ligues anciennes et aussi la création de nouvelles. Je ne vais évidemment pas toutes les énumérer, mais j'en citerai quand même trois ou quatre. L'Action française de Charles Maurras, qui est à ce moment-là en train de revenir sur le devant de la scène, après avoir été condamné par le Vatican en 1926.
Donc des monarchistes.
Des monarchistes, anti-républicains, ouvertement anti-républicains et anti-démocrates, qui s'étaient présentés aux élections de 1919 et 1924, mais sans succès, et donc qui sont et qui se situent eux-mêmes hors du jeu, évidemment, politique classique. Vous avez les Jeunesses patriotes de Pierre Tétinger, alors, qui sont les héritiers de la Ligue des patriotes qui était née à l'époque de Boulanger, donc les héritiers de Déroulède, hein, de Paul Déroulède, les Chants du Soldat, etc. Et ce qui est intéressant, la Ligue de Barrès, d'ailleurs, Barrès était membre de la Ligue des patriotes, il en a même été le président à partir de 1914, mais ce qui caractérise ces Jeunesses patriotes, c'est que d'un côté, elles ont pu appuyer les gouvernements de droite classique entre 1928 et 1932, Tétinger était assez proche de Tardieu, mais depuis 1932, elles sont très clairement dans l'opposition, elles mobilisent la rue, les Jeunesses patriotes, et au sein de ces Jeunesses patriotes, Tétinger est, je ne dirais pas débordé, mais quand même poussé par une aile plus activiste, notamment par les jeunes gens menés par Roger de Sèvres, qui voudraient que la Ligue retrouve un certain activisme qu'ils estiment qu'elle a perdu. Alors, il y a une autre ligue, on en reparlera, la Solidarité française, qui a été créée par le parfumeur François Coty. Il y a les Croix de Feu, du lieutenant-colonel Delaroque. Alors là, c'est un mouvement beaucoup plus hybride, parce que d'un côté, vous avez un mouvement d'anciens combattants, c'est ce qu'il est au départ. Hein. Les Croix de Feu ont été créés en 1927. C'est un mouvement élitaire qui doit intégrer dans ses rangs les combattants qui ont été particulièrement décorés au feu. Mais le lieutenant-colonel Delaroque, qui en prend le contrôle au tournant des années 30, veut que ce mouvement se transforme. Et donc, il va faire appel aux fils et filles de Croix de Feu, et il va construire progressivement ce qui va devenir un mouvement de masse, Ce qui n'est pas le cas en 1934, on considère que les Croix de Feu ont à peu près autour de 100 000 membres, ce qui n'est rien par rapport aux 600 000, évidemment, de 1936. Donc ça, ce sont pour les ligues, j'allais dire classiques. N'oublions pas d'autres ligues, la Ligue des Contribuables, hein, liée à l'Action française, mais n'oublions pas aussi, dans ce paysage et qui va occuper la rue, des associations d'anciens combattants très mobilisées, pour la défense des pensions, pour dénoncer aussi la corruption du régime. Vous parliez dans l'introduction de la campagne contre les voleurs, etc., etc. L'Union nationale des combattants, plutôt marquée à droite, est très présente. Il y a aussi le 6 février au soir des anciens combattants communistes, hein, de l'Association républicaine des anciens combattants. Et puis, on les oublie parfois, et on en parle beaucoup dans le livre aussi, il y a le rôle du Conseil municipal de Paris, qui a des liens avec les ligues, avec les droites, qui se mobilisent également en février. Et puis il y a aussi toute la presse. Et là, l'Action française et beaucoup d'autres organes sont effectivement en pointe pour appeler à manifester et pour dénoncer la République parlementaire.
Donc du choix dans les propositions politiques. Et il y a aussi un contexte que vous soulignez, février 34, c'est pas sorti de nulle part. Il y a vraiment, vous parlez d'un pays entré dans l'ère des incertitudes et du pessimisme.
Oui, c'est incontestable.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et est-ce que chaque Français est touché par ce pessimisme?
Alors, il y a, il y a plusieurs éléments. On a aussi parlé de l'hiver du malaise. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, plusieurs éléments. D'abord, en février 34, enfin même avant février 34, nous avons une France qui rentre dans la crise, ou qui est rentrée dans la crise plus tardivement que les autres, hein, qui est rentrée à partir de l'automne 1931, et les années 32, 33 et le début 34 sont marquées par une crise économique qui se développe avec un chômage important, même si le chômage n'a rien à voir avec celui qu'on observe en Allemagne ou aux États-Unis. Mais c'est aussi une crise politique, parlementaire, hein, avec effectivement un régime qui est jugé déficient par rapport aux besoins du pays, et d'autant plus déficient que le contexte international inquiète beaucoup, avec, faut-il le rappeler, l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne, donc en janvier 1933, et l'inquiétude, alors là qui est en particulier celle de ces milieux nationalistes, nationaux, anciens combattants, face à la menace allemande, considérant que la politique extérieure menée par les radicaux, mais aussi menée par une partie des droites entre 28 et 32, était beaucoup trop complaisante à cause de la Société des Nations, du rapprochement franco-allemand, etc., etc. Donc une crise qui, dans le cas français, est vraiment une crise polymorphe, c'est-à-dire qu'elle se manifeste de différentes façons, et vous avez effectivement une inquiétude qui pointe, si on ajoute à cela les problèmes, des problèmes de déficit, la question également de l'augmentation des impôts. Enfin, vous avez toute une série de protestations qui s'agrègent, hein, on se croirait presque par moments un peu aujourd'hui, entre les agriculteurs, les chauffeurs de taxi, les problèmes de carburant, etc., etc. Il y a véritablement de quoi nourrir un mécontentement qui est un mécontentement profond.
Et de fait, quand il y a des crises comme ça, on accuse le gouvernement. Et c'est l'affaire Stavitsky qui met en quelque sorte le feu aux poudres. Vous dites que c'est celui par qui le scandale arrive. Alors lui, c'est un grand bandit. Mais alors pourquoi est-ce que c'est par ce scandale en particulier que la France se soulève, que du moins ces ligues décident de manifester?
Alors, Stavitsky est effectivement un escroc de haut vol. On essaye de reconstituer sa biographie. Il y aurait d'ailleurs beaucoup plus encore à en dire, mais bon, nous étions un peu, j'allais pas dire, pris par le nombre de pages, parce que c'est un gros livre qui a été...
Oui, il y a tout de même...
752 pages, oui, je sais bien. Mais Stavisky, effectivement, en méritait quelques dizaines. Alors, Stavisky, c'est un escroc de haut vol, qui a effectivement multiplié les escroqueries tout au long de sa carrière. Il a une très longue carrière d'escroc. Et en particulier, l'escroquerie qui va le faire tomber, c'est l'escroquerie des bons de Bayonne. Alors, pourquoi est-ce que justement cette escroquerie le fait tomber? Alors, l'escroquerie des bons de Bayonne, elle est assez simple. Hein, c'est une pyramide de Ponzi tout à fait classique. Il fait souscrire des bons en remboursant au souscripteur les intérêts, en leur versant des intérêts qui ont été, qui sont pris évidemment sur le capital versé par les autres, sauf que en 1932-1933 la situation économique se dégrade et que de moins en moins de gens sont à même de souscrire. Mais ce qui va véritablement mettre le feu aux poudres par rapport à Stavisky, ce sont les très nombreuses complicités dont a disposé Stavisky. Complicité dans le parti radical, hein, et là, de ce point de vue, bon, nous donnons effectivement toute une série d'exemples, il n'y a pas que le parti radical, hein, il y a aussi, Stavisky avait eu l'habileté de compromettre aussi un certain nombre de gens du centre droit, donc c'est un élément important, mais les radicaux sont en première ligne, et en particulier le beau-frère du président du conseil, Camille Chautant, qui lui est magistrat, procureur, et qui a participé à la possibilité offerte à Stavisky d'avoir 19 renvois de son procès, donc évidemment, ça l'affiche très très mal. Stavisky est mis en cause, l'Action française et la presse s'emparent de cette affaire, on est au tournant de 1933-1934, et puis évidemment, j'allais dire, la cerise sur le gâteau, c'est le 8 janvier 1934, Stavisky se sentant menacé à quitter Paris pour éviter l'arrestation, il se retrouve à Chamonix, il est dans un chalet, il va se suicider, personne ne va vouloir croire au suicide, et le gouvernement va être accusé d'avoir abattu Stavisky, l'homme qui en savait trop, etc. Et comme en plus le gouvernement Chautant va refuser tout au long du mois de janvier l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, tout au long du mois de janvier, donc bien avant le 6 février, effectivement, les mouvements étudiants, les ligues, l'Action française en tête, mais pas seulement, vont organiser sur Paris un certain nombre de manifestations, évidemment jusqu'à celle du 6 février.
C'est important de le préciser, c'est qu'en fait le 6 février 34 n'a pas été organisé de manière isolée, c'est qu'il a presque été préparé tout le mois de janvier.
Alors, il a été préparé en janvier, oui, et j'ajouterais même que vous avez une... je suis pas sûr qu'il ait été véritablement préparé. C'est-à-dire que vous avez deux phases. La première phase nous amène jusqu'au 27 janvier 1934, c'est-à-dire le jour où Chautant, finalement, quitte le pouvoir, et le jour où Chautant quitte le pouvoir... se déroule ce jour-là une manifestation dominée par l'Action française, qui est une manifestation plus violente que les précédentes. Et où, d'ailleurs, pour la première fois, non seulement cette manif elle est plus violente, elle est à Paris, hein, tout se tient à Paris, tout se joue à Paris, elle est plus violente, mais surtout, pour la première fois, dans la sociologie des manifestants, il n'y a pas seulement des leaders, il y a aussi un certain nombre de passants, de badauds, qui viennent prêter main forte aux manifestants pour se mobiliser et pour eux aussi, ces manifestants occasionnels, participer à des actions contre les forces de l'ordre. Ça, c'est un élément important. Mais ce qui va sans doute être l'élément le plus déclencheur de la manifestation du 6 février 1934, c'est évidemment la mutation-sanction du préfet de police, Jean Cap.
Alors, est-ce que on peut dire, par rapport à ces scandales, par rapport à ces manifestations, que c'est plutôt la droite, voire l'extrême droite, qui se révolte et la gauche ne dit rien? Ou est-ce que finalement, il y a quand même une espèce d'union des Français face à ce gouvernement corrompu?
Ah non, alors faut être tout à fait clair. Hein. Ceux qui mènent les campagnes de presse et le combat dans la rue, enfin un combat relatif, mais les mobilisations dans la rue, ce sont principalement les droites, et en particulier les droites extra-parlementaires, c'est-à-dire les ligues, appuyées par la presse nationaliste, donc il y a l'Action française, mais il y a le National des Jeunesses Patriotes. Bon, toute une partie de la presse, d'ailleurs, est hostile à Stavisky et au gouvernement radical. Les radicaux sont évidemment très gênés aux entournures par cette affaire. Les socialistes... également, mais les communistes, eux, sont très violemment dans l'opposition au gouvernement radical, donc vous avez un phénomène, en fait, de polarisation qui s'opère, mais cette mise en cause du gouvernement, des autorités, on la retrouve aussi du point de vue de l'opinion publique, et on le sait par toute une série d'archives de police, par exemple, si vous voulez, dans les cinémas, au moment où se diffuse, donc avant le film, hein, des images d'actualité, d'ailleurs, à la fin, on décide de les mettre de côté, on entend la bronca des spectateurs, et vous avez à l'époque des salles extrêmement, extrêmement grandes, hein, de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de spectateurs, donc ça fait beaucoup de bruit, on a des professions qui sont mobilisées, les chauffeurs de taxi, on a des cafetiers qui mettent des petits papillons, nous ne servons pas les députés, etc., etc., donc vous avez tout un peuple parisien qui réagit, un peuple d'indépendants, de classe moyenne, qui réagit contre le gouvernement. C'est pas uniquement l'affaire des lignes, même si elles sont évidemment, j'allais dire, l'aile marchande du mouvement.
Alors, vous avez dit que l'élément déclencheur, c'est la mutation du préfet de police Jean Cap, qui était en poste depuis 1927. Alors, en quoi la mutation d'un préfet de police peut déclencher une manifestation?
Alors, Jean Quiappe n'est pas un préfet de police ordinaire. Jean Quiappe est d'abord un préfet de police qui, effectivement, est installé depuis 27, donc a priori, ça veut dire aussi que les radicaux s'en sont accommodés depuis 1932, mais Jean Quiappe est particulièrement détesté par les gauches socialistes et communistes. Et les communistes, en particulier, appellent Jean Quiappe, Jean Fesquiappe, le détestent. Pourquoi ? Parce qu'en 1927, il avait très violemment réprimé la manifestation Sacco Vanzetti, défense des anarchistes, donc Sacco Vanzetti, et surtout Quiappe finalement mis en place toute une série de mesures pour, d'un certain point de vue, empêcher ou du moins limiter au maximum la possibilité pour les gauches de manifester dans Paris. Et Quiappe est accusé d'être le préfet de police des ligues. Alors, c'est excessif, même si Quiappe penche plutôt à droite, c'est incontestable. Les ligues ne font pas non plus ce qu'elles veulent, mais il est évident que quand il y a des arrestations, les militants sont relâchés plus facilement, etc. etc. Et Daladier se voit en fait mis sous pression, notamment par les socialistes, pour en finir une fois pour toutes avec ce préfet de police. Alors c'est important parce que quand il commence à composer son gouvernement, il veut l'ouvrir à une partie des droites. Je parlais de la concentration républicaine, une alliance au centre droit. Ses interlocuteurs lui demandent, lui posent la question, est-ce que Quiappe est menacé ? Alors au départ on ne dit pas du tout. Et puis finalement, Quiappe va se retrouver sur la sellette et Quiappe va être effectivement muté. Alors, c'est une mutation qui en soi paraît une promotion puisqu'il est nommé résident général au Maroc, donc c'est un très beau poste. Mais dans le contexte évidemment dans lequel la chose s'opère, on s'est arrangé par un jeu de chaises musicales pour muter un certain nombre d'autres figures, il est évident que c'est Quiappe qui est sanctionné. Et là, contre toute attente, hein, on est... trois, quatre jours avant le 6 février, et bien contre toute attente, c'est le week-end d'avant, hein, le 6 février c'est un mardi, hein, et tout le week-end qui précède est dominé par cette mutation sanction de Quiappe. Quiappe refuse de quitter son poste en prétextant qu'il a une sciatique, etc. Tout ça est tout à fait inédit, se trouve doté d'un certain nombre d'appuis, et Quiappe qui avait déjà commencé à négocier avec des associations d'anciens combattants, etc., la possibilité qu'il ne manifeste pas le 6 février, parce que la manifestation du 6 février, elle avait été prévue en amont, et elle avait été prévue en amont pourquoi ? Parce que c'est le jour où Daladier devait se présenter devant les chambres. Mais Daladier, finalement, avait des appuis à droite. C'est un ancien combattant, il avait la réputation d'ailleurs réelle d'être un homme honnête, pas compromis par Stavisky, etc. Et Quiappe avait, toujours avec pas mal d'entre gens, essayé de limiter, au fond, la possibilité de manifestation contre Daladier. Simplement, évidemment, une fois Quiappe muté, un nouveau préfet de police est nommé, bien sûr, mais les manifestations qui étaient sinon sur le point d'être rapportées, mais du moins d'être sans doute moins suivies, etc., les organisations, notamment d'anciens combattants, Croix de Feu, etc., décident de les maintenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une manifestation importante des Croix de Feu le 5 février, importante, et puis on arrive bien sûr au 6.
Il fallait marquer le coup parce que c'est l'investiture de Daladier.
C'est l'investiture de Daladier et en plus, le renvoi, la mutation sanction de Quiappe est un motif supplémentaire pour justement sanctionner ce gouvernement.
Alors est-ce que cette manifestation, on peut dire que c'est l'expression d'une colère avec des accusations contre le gouvernement que vous avez déjà évoquées, ou est-ce qu'elle suit un but précis ?
Alors, ce qu'on arrive à démontrer, c'est que cette manifestation, d'ailleurs, le singulier est de trop, c'est manifestation. Hein, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'à peu près un quart de la capitale, entre la fin d'après-midi et le lendemain, sinon le lendemain matin, du moins tard dans la nuit, se retrouve relativement en ébullition. C'est effectivement une manifestation qui vire à l'émeute, place de la Concorde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'origine, ces ligues défilent comme elles ont toujours défilé, c'est-à-dire en ordre dispersé. Elles n'ont pas de mot d'ordre commun, à part protester contre les voleurs. Mais les ligues défilent très classiquement rive gauche. Je rappelle que la Concorde se situe rive droite. Et donc, les Jeunesses Patriotes, l'Action Française, les Croix de Feu sont plus proches de l'Assemblée, sont massés sur les lieux de manifestation habituels, hein, que ce soit le boulevard Saint-Germain, la rue de Bourgogne d'ailleurs pour les Croix de Feu. Donc, en amont de la soirée du 6, toute la fin d'après-midi, début de soirée, bon, ça fonctionne, Très bien, les dirigeants des ligues sont là avec leurs militants, jusque-là rien que de très classique, hein, ça ressemble aux manifestations qui ont précédé, sauf que l'épicentre qui n'a pas forcément été prévu, ni par les manifestants d'ailleurs, ni par les forces de l'ordre, qui ont mis un dispositif relativement léger, va se trouver place de la Concorde. Car pour comprendre ce qui se joue le soir du 6 février, il faut mettre l'accent, et c'est ce que nous faisons véritablement dans ce livre, sur les carences, les insuffisances du maintien de l'ordre. Un maintien de l'ordre qui va se retrouver, pour toute une série de raisons, tout à fait débordé par ce qui se passe. Et effectivement, à la Concorde, à partir de 18h, vous avez un certain nombre, effectivement, de manifestations des ligues qui commencent un peu à arriver. C'est-à-dire que, comme ils n'ont absolument pas prévu de couper les ponts entre la rive gauche et la rive droite, ben, finalement, un ensemble d'individus trouvant qu'ils sont un peu bloqués rive gauche vont passer rive droite. Mais surtout, vous arrivez à la Concorde, bon, toute une série de badauds, de passants, de manifestants isolés qui font masse, qui protestent, qui dénoncent le régime. On y trouve aussi à la Concorde un certain nombre d'associations d'anciens combattants. Eux, ils sont évidemment rive droite à cause du soldat inconnu et de la possibilité qu'il aurait donné de descendre les Champs-Élysées, d'aller à la Concorde, etc., etc. Donc vous avez les anciens combattants communistes, vous avez l'UNC, vous avez aussi les croix de feu qui sont installées sur les deux rives. Et de ce point de vue, le lieutenant-colonel de la Roque avait, qui n'a jamais songé à prendre la chambre d'assaut, mais était toujours fidèle à sa logique en quelque sorte d'intimidation. Ce qui fait que vous avez, à partir de la fin d'après-midi, début de soirée, une pression des manifestants sur la place de la Concorde, et tout va basculer autour de 19h20-19h30, lorsque, pour le coup, une colonne dominée par Vince Guide, qui est un des responsables de la solidarité française, lui, qui s'engage sur la Concorde, va vers le barrage des manifestants, et là, le drame se produit, parce qu'effectivement, les forces de l'ordre prennent sans doute peur, refusent bien entendu de laisser avancer ces manifestants. Alors là, on a toute une controverse pour savoir s'il y a eu des sommations, pas des sommations. Je rappelle que devant la commission d'enquête parlementaire, les responsables des forces de l'ordre, on l'explique en détail dans le livre, se renvoient les responsabilités du drame, mais là, vous avez déjà, dès 19h30, quatre personnes qui meurent, et puis ce sont les premiers morts de la soirée, les blessés, les cafés-restaurants de la place de la Concorde se transforment en hôpitaux de campagne. On entre dans une soirée qui va être absolument dramatique. Mais qui est dramatique? Rive droite, place de la Concorde. De l'autre côté, disons que ça peut être rugueux, mais c'est quand même sans comparaison possible avec ce qui se joue rive droite, à la Concorde, et plus largement d'ailleurs, hein, rue de Rivoli, rue Royale, en allant vers les boulevards également.
Oui, donc un drame, et puis c'est intéressant de souligner les différents cortèges, parce que pour bien imaginer l'ambiance à cette époque-là, l'écrivain Drieu La Rochelle soulignait le fait qu'on chantait pêle-mêle la Marseillaise et l'Internationale. Donc il y a vraiment une union des extrêmes politiques. Alors est-ce qu'ils veulent prendre, est-ce qu'ils veulent en venir aux mains avec les députés? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement?
Alors, bon, Drieu, effectivement, Drieu l'a écrit. Drieu parle surtout de la fin de la soirée, de la fin, donc on est carrément là dans la nuit, c'est effectivement un peu les derniers carrés qui restent, parce qu'il y a eu des communistes effectivement à la Concorde, hein. Il y avait les anciens combattants communistes hein, qui étaient présents, mais des militants du Parti communiste sont aussi venus à la Concorde. Hein, il faut savoir que les anciens combattants communistes, de la RAC sont dirigés par un homme qui s'appelle Jean Duclos. C'est le frère de Jacques, le numéro 2 du Parti communiste. Donc évidemment, ils suivent les uns et les autres la chose de très près. Mais, encore une fois, la Drieu a terriblement aussi poétisé, comment
c'est
dire ça ?
C'est un écrivain.
Oui, non, mais au-delà de ça, il a sublimé ce moment, parce que Drieu y voit, par la suite, effectivement, le ferment d'un fascisme français qui va s'exprimer dans le Parti populaire français. Donc ça, c'est toute la littérature de Gilles, son livre Gilles. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment Aragon, hein, dans Aurélien, va raconter, alors lui aussi à sa façon, sur un mode tout à fait particulier, la soirée du 9 février, qui est la soirée des communistes, où là, il y a un certain nombre de morts aussi, avec des communistes qui ont tiré avec des armes à feu sur les forces de l'ordre. Voilà, mais en réalité, il n'y a pas de communistes qui meurent le soir du 6 février à la Concorde, ça aurait été envisageable, hein, parce que beaucoup de gens sont morts.
Même des badauds.
Des badauds sont morts ou blessés. Et j'ajoute que parmi les ligueurs, et ça c'est un élément aussi important, parce que le lendemain, les ligues, l'Action française, les jeunesses patriotes, la solidarité française, ont revendiqué des morts. Ce que nous avons quand même mis en avant, c'est le fait que les morts revendiqués n'étaient pas des militants de premier ordre, c'est le moins qu'on puisse dire, voire même dans certains cas, des militants qui n'étaient plus à jour de cotisation. Mmh. Donc, mais c'est tout à fait logique, puisque les principaux militants, eux, on les trouvait de l'autre côté de la Seine. J'ajoute que ces militants, et c'est ce qu'on a aussi mis en avant, sont venus pour l'essentiel d'entre eux, sont venus pour leur part, sans être armés. Et ça, c'est évidemment un élément très important. On le sait quand on observe les blessures dont ont été victimes les forces de l'ordre, à l'inverse de celles qui ont touché les manifestants.
Mais quand on vous écoute, on a l'impression que ces morts, et puis même le trajet de la manifestation, cette espèce de chaos, enfin du moins de drame, est lié surtout à une espèce de désorganisation et de panique du service d'ordre.
Mais c'est à la Concorde un élément absolument décisif. Je crois qu'il faut comprendre dans quelle conjoncture on est. Vous avez des autobus et des voitures qui continuent de circuler pendant la soirée. Vous avez une Concorde qui n'a jamais été barrée. Ce qui fait que vous avez des cortèges qui remontent, par exemple, on suit dans le livre très en détail les cortèges des anciens combattants. Alors, ils remontent vers les boulevards, ils redescendent, et à chaque fois, si vous voulez, ils reviennent vers la Concorde, qui est un véritable aimant, parce qu'on aperçoit la chambre, il fait nuit. Mmh. Il fait nuit, ne l'oublions pas. Rien n'a été prévu pour éclairer la place. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que quand nous prenons les témoignages, nous les prenons aussi avec beaucoup de prudence, parce que d'aucuns disent « oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça, mais que voyait-on aussi précisément ?» Parce que je sais qu'il y a des photos, mais j'entends bien. Mais d'abord, il n'y en a pas tant que ça, et puis par ailleurs, vous avez effectivement des témoignages qui sont sans doute sincères, mais quand même discutables de par la matérialité, si vous voulez, que pouvaient représenter ces témoignages. J'entends par là que dire de gens qui vous prétendent d'avoir vu de nuit à X mètres de telle ou telle scène, donc c'est un élément important. Mais pour revenir sur votre question, ce qui est très frappant, c'est de voir comment cette place de la Concorde est une forme de goulot d'étranglement, si vous voulez. On y revient constamment. Ce qui rend d'ailleurs difficile de répondre à une question qui est très souvent posée, combien étaient les manifestants ? Alors il y en a qui ont dit 100 000, bon nous on est plutôt autour de 30 000, mais en réalité ça va, ça vient. Ça vient, ça va. Et alors il y a des moments effectivement dramatiques quand par exemple les anciens combattants se retrouvent à 200-250 mètres des forces de l'ordre. S'ils continuent à avancer, que font les forces de l'ordre? Vous comprenez que s'ils tirent sur les anciens combattants, c'est absolument terrible.
Oui, c'était pas du gaz lacrymogène.
On a cherché à en fabriquer entre le 6 et le 7, il n'y avait pas de gaz lacrymogène. Il y avait matraques, armes à feu, une des forces de l'ordre, ceux qui connaissent Paris et la Concorde vont comprendre tout de suite, vous avez les forces de l'ordre sur le pont, ils ont mis à peu près deux heures et demie à gagner quelques dizaines de mètres, et toute l'affaire a été de reprendre le contrôle de la place de la Concorde, ce qu'ils ont fini par faire à l'extrême fin de la soirée, et là dans des conditions particulièrement dures, avec des charges de la garde à cheval qui ont été elles aussi sanglantes, parce que là il n'y a pas eu de quartier, au point d'ailleurs que vous avez vous parliez des badauds, mais vous avez un certain nombre de personnes qui, dans des rues adjacentes, rue de Miroménil, etc., se sont fait taper dessus alors qu'elles n'avaient strictement rien à voir avec la soirée du 6 février. Mais vous avez un service d'ordre excédé qui veut absolument en finir avec ce désordre donc de la manifestation où, il faut bien le dire aussi, les policiers et les forces de l'ordre ont été prises à partie, alors pas avec des armes à feu, mais avec tout ce que les manifestants ont pu trouver sur place. Et notamment le membre du service d'ordre qui est décédé manifestement d'un enfoncement crânien lié à un jet d'arceau de fonte.
Alors, on parle de cette violence, mais est-ce que cette violence du 6 février, elle a un caractère exceptionnel ou est-ce que c'est courant dans les manifestations?
Alors, elle a quand même un caractère exceptionnel. Elle a un caractère exceptionnel de par la violence de la répression et, encore une fois, de la désorganisation du service d'ordre. Je crois que c'est un élément très important. Mais, malgré tout, je vous parlais de la question de la séquence. On a travaillé sur l'ensemble du mois de février, des manifestations de février. Au total, s'il y a 19 morts, donc le 6, c'est-à-dire en fait 15 15 plus 4, c'est-à-dire que on compte dans les morts de février ceux qui étaient très blessés et qui sont morts très vite. Des suites très directes. Au total, en février 34, vous avez 30 morts. Donc évidemment, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, paraît tout à fait aberrant. Mais, même à l'époque, si vous voulez, les morts de février vont peser évidemment très lourd dans la décision de Daladier de quitter le pouvoir. Alors, dès le lendemain, il explique que ça a été un coup d'État fasciste, que la République était menacée, etc., etc. C'est la défense tout à fait classique, et qui a d'ailleurs beaucoup vécu par toute une mémoire du 6 février 34. Mais il n'en demeure pas moins que, politiquement, évidemment, c'est extrêmement lourd à porter. Et là aussi, quand ses adversaires, je veux dire les adversaires de Daladier, l'ont accusé de guet-apens policiers, etc., etc., quel était l'intérêt de Daladier, qui avait une majorité à la Chambre, de provoquer 19 morts, place de la Concorde? Aucun.
Et puis plutôt apprécier des droites, en plus.
Apprécier. Alors, ils n'ont pas voté pour lui, mais disons, oui, davantage toléré que ne l'était un Chautemps. Non, c'est bien pour ça qu'on a insisté sur la question du maintien de l'ordre. Le nouveau préfet de police, Bonnefoy-Cibourg, débordé. Les relations entre la Sûreté nationale et la préfecture de police, très mauvaises. Encore une fois, une organisation du maintien de l'ordre tout à fait déficiente. Alors, après, on a tout imaginé, faire venir des forces armées à Paris, des chars, etc. La nuit du 6 au 7 est très très riche en supputations et en possibilités. Bon, et finalement, ça se termine avec la démission de Daladier et puis l'arrivée au pouvoir du fameux Gaston Doumergue, l'ancien président de la République, dit Gastounet, donc ce qui donne une idée du personnage. Voilà.
Mais alors, si c'est pas un coup d'État fasciste, qu'est-ce que c'est le 6 février 34?
Le 6 février 34, c'est principalement une manifestation de fureur qui tourne mal, où il y a effectivement une violence de la part des manifestants, c'est incontestable, mais une violence en quelque sorte à main nue, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient inertes devant les forces de l'ordre, bien entendu, mais c'est quand même bien de cela dont il s'agit, une forme de fureur impuissante, si vous voulez, avec des manifestants qui, de toute façon, n'ont encore une fois pas de but précis, parce que même, imaginons qu'ils soient rentrés dans la Chambre des députés, qu'y aurait-il fait? Il n'y a pas de projet véritablement mis sur pied. Ceux qui commencent à avoir un projet, c'est autre chose. Au sein des droites parlementaires, c'est ce qu'on montre dans le livre, un homme comme Pierre Laval a très clairement un scénario de rechange. C'est-à-dire, au fond, lui et quelques autres songent déjà à Doumergue, mais ils n'ont pas besoin directement des ligues pour ça, ou du moins, ils peuvent s'appuyer éventuellement sur la pression de la rue. C'est ce qui s'était passé en 1926 avec Poincaré. Simplement, quand Poincaré, en 1926, était revenu au pouvoir avec l'appui des ligues contre le cartel des gauches. On est dans un scénario déjà vu, quelque part, sauf ce qui n'a évidemment jamais été vu, c'est cette violence, c'est ce sang qui coule, c'est ce millier de blessés, parce qu'il y a les morts, il y a les blessés, et il y a aussi un autre élément qui est très important le 6 février 34, c'est, et on le voit aussi le 7 d'ailleurs, c'est tout ce qui relève de la destruction du mobilier urbain. La rue de Rivoli est dans un état épouvantable, les pillages, etc. Quand aujourd'hui on parle des casseurs, il y en a dans la soirée du 6 et dans la soirée du 7.
Alors, vous avez parlé de la démission de Daladier, mais est-ce qu'il y a d'autres conséquences directes et plus lointaines de cette manifestation?
Alors oui, c'est-à-dire, la conséquence, effectivement, première, c'est Daladier qui démissionne, Doumergue qui arrive au pouvoir, pour mettre sur pied un grand ministère d'Union nationale. Alors, c'est là où c'est les mystères de la Troisième République. Ministère d'Union nationale, ça veut dire que les radicaux vont y participer. Ce n'est pas Daladier, ce n'est pas Chautemps, c'est Édouard Herriot. Mais on trouve dans ce ministère le maréchal Pétain qui se retrouve à la tête de l'armée. On va retrouver Tardieu qui est au gouvernement. On essaye d'ouvrir la majorité cette fois-ci vers la droite avec un programme qui est un programme double. Créer et mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire et mettre sur pied aussi un projet de réforme de l'État. Ce projet de réforme de l'État, beaucoup en est attendu. Et finalement, l'alliance, j'allais dire, des radicaux d'un côté et des proches de Flandin, donc de la concentration républicaine, qui ne veulent pas sortir de la République parlementaire, va avoir raison de ce projet au début du mois de novembre 1934. Le congrès du Parti radical, le congrès de l'Alliance démocratique font savoir que finalement, le tonnerre est passé, on va continuer comme si de rien n'était, même si par la suite Flandin a mené quelques réformes institutionnelles. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième élément qui est très important en février 1934, c'est que le soir du 6, ou plutôt le lendemain du 6, on fait les comptes. Alors, on fait les comptes, à savoir que c'est une manifestation parisienne. Les ligues ont aussi manifesté dans certaines villes de province. À Rouen, on explique tout ça, hein, à Nancy. Mais ce que d'aucuns à l'époque considèrent comme une grande menace, voire un succès des ligues, nous, c'est ce qu'on montre en réalité. C'est un terrible échec. Mmh. Un échec dont elles ne se rendent pas compte, dont elles ne veulent pas se rendre compte, y compris au niveau de leurs dirigeants. Ils vont s'en rendre compte plus tard. Certains vont en tirer des conclusions. Je vais y revenir dans un instant. Mais c'est un échec des ligues qui va, malgré tout, à cause de la menace et de l'interprétation qui en a été donnée, parce que les Français, la radio ne disait rien. Il y avait quasiment un blackout sur la radio. Les Français ont été informés en province par la presse de province. Ils ont vu Paris flamber, etc., etc. Ça provoque une véritable réaction des gauches. Et les gauches se retrouvent remises en scène au lendemain du 6 et du 7 février 1934, ce qui permet de comprendre pourquoi effectivement non seulement les communistes défilent de neuf, mais pourquoi, sous l'impulsion notamment de la CGT, eh bien vous avez de prévu pour le 12 février une grande grève générale, avec de grandes manifestations en province et en banlieue et à Paris. Et c'est à ce moment-là effectivement qu'on observe d'abord des gauches très présentes dans la rue, ce qui n'était plus forcément le cas depuis longtemps, et des phénomènes de rapprochement tout à fait inédits. Alors, c'est pas encore le Front Populaire, hein. Le Front Populaire, ça va se jouer plus tard avec l'Internationale Communiste, etc. Mais il y a une poussée unitaire à gauche qu'on observe, pas partout. Alors ça, on essaye de dresser une géographie assez précise en fonction d'un certain nombre d'usines, de départements, de villes, etc. Mais il y a une poussée à gauche incontestable, une poussée à gauche au lendemain du 6 février, au nom de l'antifascisme, et tout au long du printemps 1934, les ligues vont progressivement perdre le contrôle de la rue. Les gauches se mettent à contrôler la rue contre les ligues, organisent toute une série de contre-manifestations contre les ligueurs, et c'est une véritable perte de contrôle pour ces ligues, pour leurs dirigeants. Et c'est pour ça que nous parlons effectivement d'échecs. Un échec qui conduit un certain nombre de dirigeants des ligues, notamment Tétinger, qui avait déjà commencé à songer à la chose, mais surtout Larocque, qui lui s'est tenu quand même relativement à l'écart, hein, le soir du 6, très prudent, mais a envisagé au fond de tirer les conséquences de cette affaire, à savoir que jamais, de toute façon, le pouvoir ne pourrait être pris par la rue, mais ils l'ont d'ailleurs pas tenté, mais que, finalement, puisque le pouvoir ne peut pas être pris par la rue, puisque, de toute façon, on ne veut pas aller vers le coup d'État dans ces milieux, il faut quand même bien le comprendre, hein. D'ailleurs, il n'y a aucune union véritable entre eux, eh bien, certains, et l'exemple de Larocque est sans doute le plus emblématique, vont choisir, avant même que les ligues soient dissoutes, elles sont dissoutes par le Front Populaire, mais la concomitance des deux est intéressante, de réfléchir à une transformation des ligues en partie pour jouer la carte légale, et ce qui évidemment va menacer très directement les partis de droite en place, parce que les ligues jusqu'alors, hein, jouaient en quelque sorte un rôle d'aiguillon de ces partis politiques. Ces partis politiques de droite étaient souvent des partis de cadres, et c'est les ligueurs qui, pendant les campagnes électorales, faisaient service d'ordre, campagne de tractage, etc., etc. Un certain nombre de responsables des ligues vont, et notamment du côté des Croix de Feu, c'est tout à fait net, vont choisir de se transformer en parti politique. Tétinger va le tenter aussi. Et à cet égard, évidemment, le 6 février 34, ou plutôt les suites du 6 février 34, ont une conséquence majeure, hein, dans l'histoire politique de la France, car avec le Parti Social Français de Larocque, qui est aujourd'hui crédité par les historiens de plus d'un million de membres, voire 1 100 000 membres avant la Seconde Guerre mondiale, vous avez la naissance d'un très grand parti de masse à droite, ce qui est tout à fait fondamental, et qui est une conséquence, effectivement, de février 34. Car celui qui profite de février 34, c'est Larocque. Beaucoup plus que les autres, les Croix de Feu en profitent, 600 000 en 36, les Jeunesses Patriotes beaucoup moins, et l'Action Française, elle, finalement, se retrouve à la fois avec un journal qui marche bien, mais un échec terrible, puisqu'elle avait elle-même, cette Action Française, toujours dit que, eh bien, elle pourrait faire le coup de force, si le coup de force est possible, etc. Elle ne pensait pas le faire le 6 février. Mais au sein même, évidemment, de la maison de France, hein, du manoir d'Anjou, eh bien, on va dire, mais finalement, l'Action Française n'a pas été capable, ne sera peut-être jamais capable de prendre le pouvoir. Et à partir de là, le prétendant va, et le futur comte de Paris va prendre ses distances avec Maurras et l'Action Française. Il va créer un journal qui va s'appeler Courrier Royal. Et pendant ce temps-là, et on parlait, là pour le coup on peut parler de fascisme, un certain nombre d'éléments durs des ligues, et pas seulement de l'Action française, mais des autres ligues, y compris les Croix de Feu, vont alors là choisir de considérer que le régime est absolument irréformable, et notamment après novembre 1934, et eux vont choisir de réfléchir à la mise sur pied d'un fascisme français.
Merci beaucoup Olivier Dard d'être revenu avec nous donc sur février 34 et non pas seulement le 6 février 34. Je rappelle que vous venez d'écrire et de publier avec Jean-Philippe Pay, que je n'avais pas nommé en introduction, donc toutes mes excuses, avec Jean-Philippe Pay, février 34, L'affrontement, c'est votre dernier livre paru chez Fayard. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.